dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Le Duo et Boris Pino. Prise de son assurée ce soir par Jean-Louis Deloncle, réalisation Daniel Finot. Ce soir, Elisabeth Philippe et Daniel Martin se font face à notre affiche « Le coureur et son ombre » d'Olivier Aralambon, un premier parallèle, entre eux, de Richard Ford, chez l'Olivier, et « En étrange pays » de Karel Skeman, en libretto. Vers 21h20, nous suivrons Xavier Martinet dans le petit salon pour parler avec lui des festivals littéraires. Il y aura encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des passes pour le festival du film de Cabourg qui se déroule du 14 au 18 juin. Nous ouvrons cette émission avec un livre qui prouve que le bouche à oreille fonctionne encore en littérature, car c'est bien grâce à lui que nous avons entendu parler les uns et les autres du livre d'Olivier Aralambon, Le coureur et son ombre, publié aux éditions Premier Parallèle. Un livre sur le vélo, écrit par un ancien coureur cycliste professionnel pendant 10 ans, devenu journaliste, ayant également suivi des études de philosophie, alors publié dans une jeune maison d'édition. Cela pouvait intriguer, mais je dois dire que dès qu'on lit les premières pages de cette réflexion sur le vélo, on sait qu'on a affaire à un livre, en effet, très particulier. Ce n'est pas prophète, hein. Jalabert n'a pas gagné le tour, mais Elisabeth Philippe est en joie d'avoir écouté ce morceau. Mais on change d'ambiance donc en découvrant les premières phrases de ce livre d'Olivier Aralambon. Plus que tout autre jour, c'est le dimanche matin que ça se passe. À l'heure de la première messe, on croise de ces petites églises ambulantes, manifestement pressées de franchir les portes de la ville, des cyclistes qui roulent en groupe avant que le jour soit tout à fait levé et par tous les temps. Le plus souvent, on comprend mal ces hommes et ces quelques femmes dont l'étrange accoutrement chamarré est si moulant qu'il épouse le moindre pli de peau, si moulant à vrai dire qu'il ne semble fait que pour revendiquer les imperfections du corps. On s'étonne de leur silhouette juchée sur l'incertitude de ces roues fines. Des corps ou de leurs ombres, on se demande qui est premier et qui déforme l'autre. On s'amuse à la vue de leurs couvre-chefs et de leurs lunettes démesurées. De fait, à qui n'en est pas épris, le cyclisme reste une étrangeté. Le plus souvent, le mot convoque quelques noms célèbres, noms qu'on sait parfois apposer à leur prénom suranné, mais aussi désincarné qu'un apôtre dans un tableau, certes. Jacques Anquetil, Louison Bobet, Raymond Poulidor devaient bien avoir chacun un visage, mais on ne les connaît plus. Pas plus qu'un collégien ne reconnaîtrait Balzac ou Flaubert en photo, et on ignore qu'Eddy Merckx fut encore plus beau qu'Elvis Presley. Il n'est guère que l'omniprésent Tour de France pour occuper une place, fut-elle très secondaire, dans la trame complexe de nos souvenirs. Impossible, en effet, quand on a le français pour langue maternelle, d'échapper à l'imprégnation du Tour. Mais il n'est pas rare que ce qu'on en sait se résume à quelques considérations ennuyées. Le cyclisme et le Tour font partie de l'arrière-fond de juillet, un peu comme la couleur du ciel ou du sable, comme la douceur tant attendue du vent passant sur la gorge ou froissant en silence la surface de l'herbe de rue, arrière-fond sonore d'une télévision devant laquelle on s'étire aux heures chaudes dans la lumière filtrée par les stores. Qui ne s'est jamais endormi devant une étape du Tour de France ? C'est votre cas, Elisabeth Philippe ?
C'est absolument mon cas, mais j'avais plutôt tendance à fuir le téléviseur quand les images du Tour étaient diffusées, parce que ça m'angoissait terriblement.
Ah !
Et pourtant j'ai choisi ce livre.
Eh oui. Qu'on vous avait aussi recommandé moi-même, au même instant.
Absolument.
Conjonction des astres.
Tout à fait. Union des esprits et des âmes. D'ailleurs, d'esprit et d'âme. Il est beaucoup question dans ce livre, bien plus que de corps et de physique. Oui, c'est vrai que pour moi, le Tour de France était plutôt l'ennui. Comme le dit d'ailleurs très justement Olivier Arallembon en quatrième de couverture, ça évoque davantage les erreurs de syntaxe et les tenues de l'ICRA au goût discutable. Et puis même en littérature, Antoine Blondin, Bernard Chambaz, bon, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, je le reconnais aisément. Et en lisant ce livre d'Olivier Arallembon, et dès les premières pages que vous avez lues, Arnaud, j'ai été happée par ce style et par cet angle choisi par Olivier Arallembon, qui, vous l'avez dit, a été coureur, mais aussi passé par la philosophie, et a notamment travaillé sur la notion d'effort en s'appuyant sur la pensée de Merleau-Ponty. Et on le ressent, et en fait, tout son propos est de montrer que le cyclisme n'est pas un sport, et tout sauf un sport, même, dit-il, mais réellement une discipline de l'esprit. Et en fait, pour moi qui suis totalement profane en cyclisme, quand je me suis plongée dans ce texte, j'ai pensé à Daniel Arras, puisque je me suis rendu compte que je n'y comprenais rien. Je ne comprenais rien au vélo. Et Olivier Arallembon le dit à plusieurs reprises, en fait, on ne voit rien. Donc ça m'a rappelé évidemment le titre de Daniel Arras, On n'y voit rien. Et effectivement, et d'ailleurs, donc Daniel Arras, critique d'art, et Olivier Arallembon ne se prive pas de faire des digressions par l'histoire de l'art, par la peinture, notamment très belle digression sur un tableau du Caravage, sur Saint-Thomas, et puis également en faisant des références à Léonard de Vinci. Donc on est vraiment dans une approche érudite, intellectuelle, spirituelle du vélo, et donc nous montre que nous n'avons que des idées fausses sur le vélo, sur le cyclisme, que c'est, pour reprendre donc les termes de Léonard de Vinci, une cosa mentale, une chose de l'esprit, et que tout est histoire de regard dans le vélo. Donc c'est encore cela qui m'a fait penser à Daniel Arras, puisque la discipline, le cyclisme consiste en fait pour le coureur à regarder en lui-même, plus qu'à regarder le paysage et ce qui l'entoure, c'est regarder en lui-même. Et moi là, j'ai trouvé qu'il nous parlait du cyclisme comme on parlerait de méditation zen. Et il y a vraiment tout ça, je trouve, qui transparaît dans le texte et démontré, je trouve, de façon brillante, dans une langue extrêmement lumineuse, extrêmement exigeante aussi, et avec énormément de rapprochements, donc de parallèles entre le cyclisme et la religion. On l'entendait dès les premières phrases avec ces cyclistes du dimanche comparés, je trouve, très joliment à des petites églises ambulantes. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce livre est une sorte d'hybride entre un essai autobiographique, puisque Olivier Arallembon s'appuie sur sa propre expérience et l'essai. Et donc, il y a à la fois cette exigence intellectuelle et puis cette sincérité, pardon, de l'expérience vécue qui se mêle et qui, je trouve, donne au propos une force inouïe, en tout cas. Et moi qui, je me suis retrouvée à être totalement passionnée par le vélo, par ces descriptions du peloton décrit comme un reptile ou une sorte de dragon, de dragon chinois, par des pages que je trouve absolument magnifiques dans un chapitre. Puis les titres de chapitres sont très, très beaux d'ailleurs. Chapitre intitulé Grâce et disgrâce. Et la grâce du coureur quand il est devant, mais il sait que ça va pas durer. Il est devant, il sent qu'il sort de son corps. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de mystique, dans cet arrachement au corps et la disgrâce qui vient quand tout d'un coup ceux qui sont derrière, bon, j'ai pas encore appris tous les termes techniques, le rattrape. Mais c'est absolument magnifique. Je trouve que c'est très intelligent. C'est pas surfait. On pourrait penser qu'il tire un peu les choses pour coller à sa réflexion. Et je trouve qu'à aucun moment c'est surfait. Et puis il y a une progression qui, je trouve, est très philosophique parce qu'on part du vélo au départ qui est présenté comme un petit cosmos à plat. Donc on est vraiment dans une sorte de genèse. Et puis ensuite, il y a la première fois qu'il part à vélo, qu'il sort de sa petite ville de banlieue, qu'il voit la campagne défiler devant lui. Là, on a l'impression que c'est Paul à Damas. Il a une forme de révélation mystique. Mais c'est vrai, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, la première course, c'est un baptême. La première licence, c'est une communion. Donc, on a toute cette évolution parallèle à la religion. Mais je trouve que c'est tout à fait juste et c'est démontré admirablement.
Bien, ben voilà pour cette belle envolée, cette échappée d'Elisabeth Philippe. Va-t-elle être rattrapée par ce poursuivant, Daniel Martin ?
Je suis absolument bluffé par cet enthousiasme. Parce que alors, j'aimerais avoir cet enthousiasme-là. C'est-à-dire, moi, c'est un livre que j'ai lu avec beaucoup de difficultés dès le départ. J'ai alors faire des images, je veux dire, aux premières difficultés, là, aux premières côtes, je dis, oulala. Et puis, il y a quelques échappées comme ça qui laissaient promettre un autre livre. Pour moi, par exemple, il dit c'est par le vélo, par la pratique assidue, presque désespérée, entre parenthèses, on n'espère jamais si fort que quand on est presque désespéré, du cyclisme que me furent révélés les piliers de l'existence. Je trouve ça extrêmement intéressant et ça c'est vraiment une des phrases, comme ça, malgré cette incise, une phrase très simple, très limpide et très bien. Et puis j'ai poursuivi, premier col ça a été difficile, deuxième col je veux dire que
vous l'avez été lâché.
J'ai craqué complètement. Alors ce que j'appelle le deuxième col, ça arrive très vite, c'est à la page 28. Il dit « Le vélo n'est pas un choix, il s'impose comme le désir et l'amour. Tels ceux de l'amant, les cheveux embroussaillés du futur coureur se sont dressés sur sa tête et ses jambes se sont dérobés un instant. De ce jour, il ne lui reste qu'un destin à accomplir. Courtiser, épouser, absorber, incorporer cette promesse de vitesse, de l'œuvre posée devant ses yeux, faire rien de moins que sa chair même. » Et là, ensuite, je dois dire que j'ai regardé le texte d'un tout petit peu plus loin. Je l'ai survolé, non pas comme on dit que quelqu'un survole les preuves, j'ai survolé pour regarder ce qu'il était.
Alors, qu'est-ce qui vous gêne dans ce que vous venez de citer, Daniel ? Qu'est-ce qui vous gêne dans ce que vous venez de citer ? Vous savez que les citations à charge ici sont normalement proscrites.
Non, là, je ne fais pas du tout une citation à charge, je donne une citation pour donner le corps du texte.
Mais qu'est-ce qui vous éloigne du texte après
alors,
avoir
moi,
lu ça?
Ce que je trouve, quand on parle de mystique, c'est très bien, parce qu'il y a une question d'érotique aussi. On est entre mystique et érotique, c'est très bien. Je veux dire, cette notion, par exemple, du vélo, de l'apparition du vélo, comme on a eu une apparition, des enfants ont pu voir des saints ou la Vierge, je ne sais pas quoi. Donc là, on est un peu dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on a vraiment ce vélo qui lui apparaît. Et ensuite, c'est un vélo avec lequel il fait corps. Ouais. Mais d'une manière, effectivement, il parle du vélo comme d'une maîtresse ou d'un amant. Enfin, comme... bon, là, on passe à la mystique, à l'érotique.
Et j'ai trouvé... mythologique même. Au mythologique aussi, avec le mythe d'Actéon. Et je trouve qu'on est totalement... puisqu'il dit la performance, c'est aussi ce qui perce la forme, comme Actéon est percé par la flèche. Et là, tous ces éléments se rejoignent.
Ah mais moi j'adore votre enthousiasme pour ce texte dont je ne veux surtout pas ébrocher quoi que ce soit, mais en même temps je me dis je suis ravi de votre lecture, mais au départ je me disais au fond il y a que des gens qui pratiquent le vélo qui peuvent le lire, et mon Dieu, alors les fameuses petites églises dont il parle au départ, vous savez, c'est quand on habite à la campagne et les week-ends on sait qu'il faut faire absolument attention sur les petites routes parce qu'il y a énormément de cyclistes, ça peut être dangereux, il y a des accidents très régulièrement, etc. Mais je me disais que ces gens, lisant ce texte, étaient un peu comme Jourdain quand il découvre qu'il pratique des arts sans le savoir. Là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il pourrait penser d'un texte comme ça ? Et alors, moi, ce qui me bloque totalement, c'est l'écriture. C'est dans l'extrait que je lis, je trouve que tout ça est extrêmement forcé, et très souvent. Il y a un très beau chapitre à la fin avec un vieux coureur qui fait la course de trot et qu'on entend. terre. Alors j'ai appris l'histoire des petites pâtes de fruits, puisqu'on l'enterre avec des, on l'enterre bien sûr avec son fameux costume et avec ses pâtes de fruits. Ça, je trouve ça assez beau. Moi, honnêtement, c'est un texte. Je suis resté totalement à côté. Alors que le Tour de France est quelque chose qui, comme beaucoup de gens, moi, je suis pas passionné des grandes manifestations sportives et d'enthousiasme que ça peut soulever. Mais le Tour de France appartient à un, c'est plutôt un rythme, à une tradition de l'année. Comme ça, ça marque quelque chose.
On s'est connu au mois de juillet, quoi.
Oui. Puis quand le Tour de France est fini, la rentrée approche. Enfin, il y a quelque
chose
Wimbledon qui se termine. Ah oui, mais alors là,
non, mais
Wimbledon, ça me dépasse, je ne connais pas les dates.
Ça suit, non mais c'est pour ça.
Ouais, alors moi, donc je ne veux surtout pas désespérer. Je trouve qu'il y a de beaux textes quand même sur le cyclisme. Il y a de grands auteurs sur le cyclisme. Mais moi, cette matière un peu épaisse, vous voyez, je pense à des roues, par exemple, en peinture, avec ces matières très épaisses. Et moi,
comme
là,
vous
je
y
peux
allez.
Pas,
je alors,
pas.
Je comprends, mais je pense, contrairement à vous, il ne faut pas être particulièrement amateur de la petite reine pour pouvoir apprécier ce texte. Moi, j'étais fan d'Eddie Merckx, mais quand j'avais 7 ou 8 ans. Donc, je suis assez éloigné du vélo. Ça ne m'a pas empêché. Alors, j'entends ce que vous dites sur le style. Il peut y avoir parfois quelque chose d'un tout petit peu forcé dans la construction de la belle phrase, avec la belle image. Bon, il n'a pas une énorme expérience d'écrivain encore, Olivier Arlambon. Moi, j'étais plus sensible, je pense comme Elisabeth Philippe, au fond, à ce regard qui n'est pas celui de Blondin, qui n'est pas celui de Paul Fournel, qui n'est pas celui de Philippe Bordas, qui n'est pas...
Ou d'Albert Londres.
Ou d'Albert Londres, qui a un regard assez différent, effectivement, avec ce parcours de vie de coureur professionnel et aussi de quelqu'un qui a suivi des études de philosophie, qui s'intéresse à l'histoire de l'art, ce que vous avez rappelé tout à l'heure, Elisabeth Philippe. Il y a un point de vue quand même très singulier, et même si parfois... Les phrases sont un peu au chausse-pied, pour rester dans une forme de métaphore. J'ai quand même été touché par cette vision.
Oui, parce qu'il y a son expérience personnelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui vient contrebalancer effectivement ces efforts de démonstration. Là aussi, on est dans l'effort, dans la performance, donc ça se sent parfois, je vous l'accorde, mais c'est immédiatement contrebalancé par ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, des anecdotes. Vous parliez de ce vieux coureur, il y a aussi cette histoire de, puisqu'il y a tout un passage sur le corps des coureurs que je trouve aussi très très beau, puisqu'on ne fait que osciller entre le corps et l'âme chez les coureurs, et il raconte cette anecdote d'un jeune homme obèse qui s'est entraîné pendant plusieurs mois chez lui sur son vélo d'appartement pour se sculpter un corps asséché de coureurs et pouvoir rentrer dans la course. Donc là, on est dans des choses très très concrètes. C'est vrai qu'on oscille aussi entre le corps et l'âme, et entre le concret et l'abstrait, la réflexion philosophique. Mais au-delà, je voudrais pas qu'on en parle comme d'un livre, un livre extrêmement intellectuel, métaphysique, même s'il l'est. Je trouve aussi que c'est un livre qui nous débarrasse d'énormément de préjugés. Je pense que le vélo et le cyclisme, c'est un sport qui souffre d'énormément de préjugés. Et moi, j'étais la première à les avoir. Ça m'intéresse pas particulièrement. Je vois pas bien l'enjeu de tout cela. Et je trouve qu'il remet en jeu, justement, ce dépassement de soi qu'implique le vélo, qui peut paraître certes une évidence, mais la façon dont il le présente ici, je trouve que ça donne une dimension bien supérieure à la simple performance physique, et ça m'a énormément intéressée. Et puis on arrive à rentrer effectivement dans l'esprit et le corps de ces coureurs dont on connaît finalement assez peu de choses, si ce n'est les excès ou les destins plus ou moins tragiques. En tout cas, pour ma part, c'est souvent ce qui retient mon attention, et c'est ce qu'il dit. Comme le vélo est avant tout une affaire de conscience, quelque chose qu'on ne peut pas voir puisque ça se passe dans la boîte crânienne des coureurs. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il nous fait rentrer dans cette boîte crânienne. Je l'ai dit, dans ces moments où d'effort et de dépassement de soi, on a vraiment l'impression de vivre cette montée du col avec le coureur qui l'éprouve. Et pour ça, je trouve que c'est un très beau texte qui, en fait, vient rendre justice à un sport qu'il aime, tout simplement.
Oui, mais cette dimension-là, où l'effort n'est pas pris au sens simplement physique, c'est-à-dire de la souffrance, de la douleur, comme ça, mais effectivement dans ce sens dépassement de soi, je trouve que dans les premières pages, et on peut nourrir une attente de ça. Moi, après, je trouve que ça se perd dans la phrase. Je trouve que cette notion de dépassement de soi, tout ça est extrêmement intéressant. Mais Franchement, le rapport au mystique, je trouve que ça me dépasse un peu. Cette relation à l'érotisme dépasse un peu par rapport au vélo. Et à la limite, je crois que je préfère des littératures qui sont beaucoup plus immédiates. Par exemple, je parlais d'Albert Londres, ces fameux textes d'Albert Londres quand il suit le Tour de France. Même s'il se fait absolument totalement bluffé par les coureurs qui leur racontent un peu n'importe quoi et qu'il manque un peu de distance de pertinent, on sort la violence, la difficulté, on sort le risque.
On le sent aussi, je trouve, dans ce livre, on le sent énormément.
Moi, c'est englué dans quelque chose.
Mais, notamment dans les pages sur le dopage que je trouve très, très, très belles, où il explique la nécessité, cette quête perpétuelle d'éblouissement. Quand ils ne peuvent plus l'avoir dans ces moments d'effort, ils le trouvent dans ces moments... Là, je pense qu'il y a un peu de mauvaise foi, mais à la limite, dans un livre qui joue comme ça avec les notions de religion, c'est tout à fait normal. Et je trouve que cette dimension de souffrance, de violence, on la retrouve aussi dans le livre d'Olivier Arallembon.
Ce livre s'appelle « Le coureur et son ombre ». Il ne nous a pas mis d'accord. Ce livre d'Olivier Arallembon, il est publié aux éditions Premier Parallèle.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
À suivre dans la dispute, Richard Ford et Karel Skeman. Tout d'abord, on suit Xavier Martinet dans le Petit Salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Alors, ce soir, ça sent l'été, hein, ça sent l'été, donc ça sent le salon, ça sent le festival, ça sent la fête.
Exactement, il fallait bien que cela fût, puisque Marseille crée son festival littéraire. Alors, ce n'est pas qu'une première, c'est un défi, annonce Hubert Artus dans Marianne. Défi, en effet, pour la métropole la plus ancienne de France, deuxième plus peuplée, mais peu tentée par la lecture et qui navigue depuis 2013 sur le souvenir des millions de visiteurs de Marseille, capitale de la culture. Alors l'arrivée de ce festival Oh les beaux jours a été plutôt saluée par la presse, édition des plus prometteuses pour l'envoyé du Figaro Alice Devlet, festival qui donne des frictions littéraires à la vie en référence à un des thèmes du festival, ou encore un pari qui réveille la canne-bière pour le Point qui s'est associé à l'événement d'ailleurs. Le festival a été bien pensé et Marseille est parvenue à marquer sa différence, dit le Figaro, d'abord par un ancrage populaire puisque la ville s'est beaucoup investie en surface et en argent, 40% des 500 000 euros du budget quand même, avec des spectacles un peu partout. Elle a aussi voulu coller à son image la mer, le foot, le hip-hop, dit Nadia Champagne, qui est une libraire bien connue à Marseille. Intention qu'on retrouve d'ailleurs à travers des bulles thématiques, comme le note bien le Figaro. Au total, ce sont plus de 100 auteurs, 60 rencontres entre conférences de Russell Banks qui évoque Donald Trump, masterclass de Daniel Pennac qui fait rire la salle avec Vincent Josse et discussions très politiques entre Christophe Onodibio et Adrien Goetz au Théâtre de la Criée. Un vrai festival en somme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à d'autres, dont le modèle du genre. Saint-Malo en première ligne qui a effectué une mue il y a quelques années, on pourra en reparler. Une littérature vivante et ouverte sur le monde, c'était le programme de Marseille. C'est le programme de Marseille cette semaine d'ailleurs. Quand les écrivains redécouvrent le monde, c'est le programme d'étonnants voyageurs. Seul regret, noté également par le site Diacritique pour Marseille, un festival un peu trop riche pour être évoqué ou parcouru en une fois. Il oblige à faire l'impasse sur d'autres événements, mais après tout, c'est ça un festival. Je le disais, festival bien pensé. D'ailleurs, la mairie s'est adjoint deux spécialistes du domaine, la libraire Nadia Champagne et puis Fabienne Pavia, qui conseillait les rencontres littéraires de Manosque. Autre festival côtier à ce titre bien implanté, le 21e festival du livre de Nice qui a lieu en ce moment avec des ambitions un peu différentes et une polémique en ce moment, on pourra en reparler si vous le voulez. Ces festivals en tout cas sont légion en France et surtout pendant l'été. En faisant le tour des journaux, ceux qui apparaissent disparaissent, ils sont au moins une vingtaine voire 10 de plus entre janvier et novembre. Télérama, Livre Hebdo ou Le Figaro, ils sont tous allés de leur sélection entre 8 et 10. Alors difficile de comparer ces festivals à un salon hein, et au Salon du Livre évidemment, mais ce qu'il faut retenir c'est que parmi eux, 5 ou 6 se détachent par leurs points communs, notamment, je le disais, Saint-Malo, Marseille, Toulouse aussi, Bordeaux, Montreuil et Vincennes dans une moindre mesure. En moyenne, ce sont 60 000 visiteurs pour ces festivals, comme pour Étonnant Voyageur, à égalité avec le Marathon des mots à Toulouse, par exemple, festival plus jeune mais bien implanté, sur 3 jours également, et un festival qui, comme Marseille, la joue beaucoup sur la scène et est capable d'inviter des grands noms de la littérature, hein, comme des comédiens appréciés aussi, Isabelle Huppert ou Denis Podalydès, ou encore ce festival Les Escales littéraires, donc à Bordeaux, un peu plus tôt dans l'année, et un peu le même programme cette année, pas de Russell Banks par exemple, mais un Jonathan Coe. Jonathan Coe, fil rouge aussi décidément, puisqu'il était à la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde, véritable modèle, elle, du genre populaire, mais une foire, hein, dans une ville moyenne, capable d'attirer 100 000 visiteurs, et les stars du milieu en plein hiver, il faut le noter. Alors, je vais pas continuer toute la liste, mais certains festivals plus excentrés et petits misent sur certaines spécificités. Grignan, qui mise sur les lectures publiques, l'effet de mots et de paroles, plus que l'ancrage dans l'actualité. Pour d'autres, on travaille sur l'image. C'est le cas du festival Corsica Polar, 11e édition cette année, qui a été rebaptisé Festival Polar Corse Méditerranée et relocalisé à Ajaccio. Certains sont des réussites par leur spécificité même, hein. Saint-Maur en poche, 9e édition, 250 auteurs cette année. La ville innove d'ailleurs, avec en évitant des monstres sacrés. D'autres sont des échecs, les rencontres d'Aubrac en suspens ou les voies de la Méditerranée qui avaient lieu à l'ODEV, dernière édition en 2015. Voilà, en résumé, j'en retiens 3 règles. Disons une règle éditoriale, la générosité, le partage, l'ouverture, l'accueil à laquelle correspond la gratuité. La deuxième, c'est que l'on se regarde beaucoup entre ces festivals, ça forme des coupes, Marseille-Saint-Malo, Livre en poche Saint-Maur ou Festival America à Montreuil, ou l'ODEV et 7 aussi pour la poésie. Et puis, globalement, la poésie au sud, la littérature dans les grandes villes. Donc, généralement, que penser de ces festivals qui se ressemblent un peu tous, les moyens peut-être un peu trop.
Ah, c'est ça. Elles se ressemblent un peu tous. Mais j'essaie de prendre quelques notes avec tous les festivals dont on peut parler ici, souvent et régulièrement. Toulouse. Alors, Marseille, c'est nouveau, j'avais pas le souvenir qu'il y ait eu de grands festivals ou salons littéraires à Marseille.
Quelques festivals épisodiques, mais...
Ouais, ça n'a jamais pris, c'est vrai.
Non, dans le sud, c'est Toulon et Nice qui étaient historiquement les plus importants.
Oui, Nice,
mais Marseille,
très longtemps.
J'ai pas souvenir. Ouais,
pas non plus. Et puis, effectivement, il y a le... Pour Lyon, l'autre grande ville française, on ne sait jamais qui est la numéro 2, c'est Quai des Polars, qui fonctionne évidemment très très bien. Qu'est-ce que... Ça répond quand même à... un engouement, enfin ça suscite un engouement public généralement assez important. Bah, Xavier, vous pouvez témoigner, vous étiez à Saint-Malo ce week-end, que je sache, vous y enregistrez une masterclass avec Michel Serres pour France Culture.
J'étais
vous
à
avez vu le monde qu'il y avait.
Alors pour l'engouement, c'est sûr que c'est un festival qui attire énormément de monde, pas seulement du public français, il faut dire aussi. Et c'est sûr qu'aussi, et ça m'a frappé en voyant Saint-Malo et en regardant la programmation des autres festivals, on pourrait parler d'un modèle Saint-Malo, voire d'une programmation un peu standardisée. Et je le soulignais parce que c'est vrai qu'en 2015, j'étais tombé sur un article, je sais plus où, qui disait, voilà, dans Livre Hebdo, Étonnant Voyageur, les 5 idées qui ont changé le salon du livre. C'est vrai que c'est un festival qui avait des problèmes de fréquentation et qui finalement, grâce à certaines innovations comme les rencontres café, comme les débats aussi, comme une production originale, je crois, sur place de certains écrits, a réussi effectivement à mobiliser tout un public qui ne venait plus dans ces festivals, parce qu'il y a une grande histoire.
Oui, enfin, Michel Lebris, donc le créateur de ce festival, aime à rappeler qu'il est effectivement à l'origine de cette ce regain d'affection et d'appétence pour les festivals, et qu'il a effectivement inventé toutes ces nouvelles formes qui ont contribué au succès de ce genre de rencontres.
Il a inventé l'imprimerie, je crois aussi.
Peut-être. Oui. Mais ça, il s'en vante moins. Je dis ça sans malice. C'est vrai
un
que
un petit peu.
Non,
Elisabeth.
Non, c'est pas du tout mon genre. Mais en tout cas, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ces festivals qui ne sont donc pas des salons, puisqu'on n'a pas affaire à des écrivains derrière des tables qui enchaînent les signatures de livres. On attend quand même autre chose, heureusement, puisque pour Saint-Malo, désormais, je crois qu'il faut payer 15 euros pour avoir accès aux différentes rencontres du festival. Je crois que d'ailleurs, ça a fait grincer quelques dents. Mais en tout cas, il faut reconnaître que depuis la création, donc dans les années 90, d'Étonnant Voyageur, c'est depuis ce moment-là qu'il y a effectivement un renouveau de ces festivals, et effectivement où on a commencé à inventer de nouvelles formes pour présenter la littérature autrement, au travers de performances, de lectures données par des comédiens.
Moi, je me souviens beaucoup ça à Manosque aussi,
qui l'a
formidablement développé.
Oui, et Olivier Chaudançon qui le fait aussi très bien à la Maison de la Poésie, qui est aussi à l'origine de Manosque, absolument. Et moi, j'étais allée au marathon des mots, et je me souviens d'avoir vu Éric Reinhardt chanter avec le groupe de rock Feu Chatterton. Je peux vous dire que sur le moment, sur le papier, j'étais pas plus convaincue que ça. Et ce qui était assez amusant, c'était de voir des jeunes filles vraiment très très jeunes qui n'avaient jamais entendu parler d'Éric Reinhardt, je les entendais parler devant moi, et qui, au terme de ce spectacle, ont été absolument conquises. Et je me suis dit, ça fait deux jeunes lectrices potentielles de gagner grâce à cette programmation. Donc, je pense que c'est une façon pour l'édition, on sait qu'il y a de moins en moins de relais, notamment dans la presse et surtout à la télé, une façon de relayer les livres, de permettre de conquérir de nouveaux publics, et beaucoup de festivals essaient notamment de conquérir le jeune public.
Exactement.
Forcément. Daniel Martin, quelques réflexions.
Oui, je trouve ça assez passionnant, et je crois que c'est assez français d'ailleurs, cette démultiplication, parce que bientôt il n'y aura plus une ville ou un village, parce que ça, les villages sont intéressés par ça, montent ce qui s'appelle des petits salons du livre qui n'ont rien de festival. Mais je crois qu'effectivement, quel que soit le nom, festival, salon, foire, il n'y a plus de manifestation où les gens sont simplement assis derrière des piles de livres à signer. Fort heureusement, c'est terminé cette histoire. Et énormément de rencontres, énormément de débats. Et quand vous disiez que beaucoup de festivals se ressemblent, au fond, peu importe, parce que quand on est à Marseille, à Brive ou à Metz, les populations se déplacent pas. Je veux dire, c'est assez régional quand même. Bon, peut-être
oui,
que
c'est un public qui est très plutôt local. Oui, effectivement. Donc c'est pas grave qu'ils se ressemblent, les festivals.
Qu'on retrouve
très présent, que ce soit à Bron aussi, que j'ai pas cité,
oui,
Bron, très important,
un festival magnifique, enfin un salon magnifique. Partout autour, le livre est effectivement dans une de ses fonctions essentielles, qui est de permettre de renouer une conversation, et échange d'idées. Ça, je trouve que c'est formidable. Ensuite, vous souleviez un problème extrêmement important, qui est le droit d'entrée. C'est vrai que Saint-Malo, ça a fait grincer pas mal de dents, parce que là, on peut dire que derrière, ça poserait pratiquement la question du financement. Des personnes qui payent 15 euros pour entrer là, est-ce qu'ensuite ce sont des personnes qui vont repartir avec des livres? Moi, une manifestation que je connais beaucoup, qu'on continue à qualifier d'extrêmement populaire et grand public, avec un petit sourire au coin des lèvres, qui est une manifestation que j'estime beaucoup plus que ça, qui est la Foire du Livre de Brive. Je trouve que là, il y a un commerce de livres qui est extrêmement important, avec un public vraiment populaire où on trouve aussi bien de l'universitaire que du rural local. Et ces rencontres sont absolument formidables, parce que tous ces gens se retrouvent pour écouter tel ou tel auteur. Et ça, c'est très... Vous disiez quand certains relais ne jouent plus leur fonction. Là, on est dans quelque chose d'extrêmement important. Puis ce contact direct avec les auteurs est quand même essentiel.
David Martinet.
Oui, sur cette question de la standardisation, peut-être de la programmation et des invités des festivals, je n'en dirais pas du mal, effectivement, puisqu'on voit qu'il y a un festival qui a fait le choix, c'est vraiment intéressant, tout récemment, d'une programmation itinérante, finalement, qui tourne un peu partout en Méditerranée, dans un certain nombre de pays, 4 ou 5, dont je crois la Turquie, l'Italie. Donc là, c'est le festival de 7, et c'est intéressant. Pourquoi ?
Les voies Méditerranées.
Voilà, c'est un festival qui était, disons, challengé, ou en concurrence avec le festival de l'Odève, juste un peu plus haut, deux festivals de poésie au début. Les deux ont été obligés de se reconfigurer, et finalement un seul des deux est sorti, on pourrait dire, gagnant, bien que l'Odève soit beaucoup plus petit et moins ancien que Sète aussi. Mais c'est ce festival de Sète, et qui a décidé effectivement d'avoir une programmation itinérante et non pas ad hoc.
Il me semble que c'est la créatrice de l'Odève qui a été exilée à Sète, il me semble.
Et plusieurs politiques derrière. Plusieurs festivals se sont internationalisés. Étonnant Voyageur, le Marathon des Mots aussi.
Absolument,
à une époque. Et il y a quelque chose derrière qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, dans toutes ces manifestations, à 99%, il est question que de livres papier.
Oui.
C'est-à-dire que les rares tentatives de négocier autre chose, d'ouvrir sur du dématérialisé, en fait, n'avancent absolument pas dans ces manifestations. Et c'est assez curieux, ça, quand même.
C'est curieux, mais puisqu'on parle d'écouter des artistes, j'en profite. J'ai évoqué la masterclass que Xavier Martinet a enregistrée, diffusion cet été sur France Culture. Il a enregistré avec Michel Serres, Delphine Chaumel, il a enregistré avec Sylvain Tesson, c'était à Saint-Malo. Mais ce samedi, autant dire demain, ce sera en public à partir de 10h du matin au studio 105 de la Maison de la Radio. Encore une journée de masterclass 5, en l'occurrence. La première à 10h avec Mathilde Monnier. Ensuite, il y aura Eric Ruff. En début d'après-midi, Macha Makeyev, Annette Messager lui succédera. Et enfin, la journée se terminera avec Olivia Sayas, donc pour ses enregistrements en direct, en public, pardon, l'entrée est gratuite. Il faut juste réserver sur le site maisondelaradio.fr. Ces émissions, ces masterclass seront diffusées cet été. Et puisqu'on est, on parle de littérature, mardi prochain, le 13 juin, ce sera la dernière masterclass à la Bibliothèque nationale de France, pour cette saison en tout cas. J'aurai le plaisir de m'entretenir avec Pierre Michon. Et le deuxième livre à notre affiche ce soir, il est signé Richard Ford, non pas pour un de ses amples romans qui personnellement me transportent toujours avec force, mais un recueil de deux textes. L'un que Richard Ford a consacré à son père, un texte écrit récemment, l'autre consacré à sa mère, écrit il y a bientôt 40 ans, juste après la mort de celle-ci. L'écrivain a choisi de les réunir en un volume intitulé « Entre eux », publié aux éditions L'Olivier dans une traduction de José Camoun.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
Dans la postface de ce livre, Entre eux, Richard Ford écrit « Cette conviction que nous vivons et mourons le plus souvent obscure a tout spécialement inspiré ce petit livre sur mes parents et déterminé son propos. La vie de nos parents, jusque dans sa gangue d'obscurité, nous fournit une première preuve solide que les événements humains tirent à conséquence, car enfin nous sommes là. » L'avenir est imprévisible, aléatoire, mais celui de nos parents nous réalise et nous singularise à la fois. Comme je tiens pour acquis que la vie vécue n'admet aucune transcendance, j'en reviens toujours au mien. Dans des moments difficiles, longtemps après leur mort, il m'arrive souvent d'éprouver d'eux, de leur réalité, une franche nostalgie. Alors les évoquer, au lieu de chercher un dérivatif, n'est pas qu'un remède à la nostalgie, c'est aussi une démonstration factuelle de cette réalité qui, je le répète, relève de l'essentiel pour moi. Voyons, il poursuit Richard Ford, et puis avant cette postface, il y a ces deux textes, le premier, donc est le plus récent, consacré à son père, mais il l'a mis précédemment à celui consacré à sa mère, qui est lui écrit beaucoup plus anciennement, parce que son père est mort bien avant sa mère, comme il le raconte. Des vies minuscules, je parlais de Pierre Michon tout à l'heure, on pourrait le dire aussi comme ça, concernant ces deux figures, Daniel Martin.
Écoutez, moi j'ai hésité à proposer ce livre parce que j'ai eu l'impression au départ...
Moi je voulais aussi conseiller, hein, donc c'est partie de ma liste, donc c'est très bien que vous l'ayez relevé.
Très docile.
Mais vous savez, des fois on résiste à vos injonctions.
Ah ben le plus souvent, c'est bien pour ça que je vous fais grâce aujourd'hui d'avoir répondu à mes invitations.
Et,
vous avez hésité?
Il me semblait que c'était un livre d'occasion, vous savez, depuis le mois de janvier. janvier, il y a quand même un peu une baisse éditoriale en qualité, mais ça c'est toujours la même chose. Ne faites pas la mousse, c'est vrai.
En période électorale.
Et je me suis dit, tiens, c'est un peu le livre comme ça d'occasion pour assurer quelques rentrées. Et en fait, j'ai été mais bluffé par cet ensemble. Le livre sur sa mère, qui s'appelait Au départ ma mère, a quand même été publié en 94. Je l'ai ressorti de ma bibliothèque. Il se vendait 5,95 € à l'époque. Et c'était dans une traduction surtout...
En 94, c'était des francs, mais enfin bon.
Alors là, j'ai été extrêmement étonné. C'est-à-dire qu'on commençait à donner...
ça doit être une réédition que vous avez sur votre bibliothèque.
Pendant toute une période, il est pris en euros, il est pris en francs.
Vous n'allez pas nous faire le coup de Marine Le Pen avec les écus. On ne parle pas des
élections. Ah non, non, mais j'ai de publier le quatrième de couverture de cet exemplaire.
Sur Twitter,
beaucoup plus intéressant. Oui. La traduction était de Boris Mathieusson.
Absolument.
Et donc, j'ai lu comme ça quelques pages alternativement de l'un et l'autre. Donc les deux disent la même chose, mais de façon totalement différente.
Oui, mais Richard Ward a repris ce texte. C'est pas seulement la traduction. Il l'a repris aussi.
Je sais pas.
Ah si, je vous le dis. Bon. C'est une version légèrement différente qui avait été publiée en 94 en euros, en écus ou en francs.
Ouais. Non, ils vont me faire calcul en écus, c'est absolument terrible.
Peu importe.
Bref, toujours est-il que je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir ces deux choses. Mais enfin, et encore beaucoup plus, c'est ce texte sur le père donc qu'on ne connaissait pas. Et ce qui se dessine au travers de ça, c'est un couple parental. D'abord, c'est une enfance heureuse. Mmh. C'est un couple parental qui est totalement étonnant. Et on voit très bien que cette vie qu'il a eue avec eux sert complètement de matrice à toute son œuvre. On ne peut pas lire ces deux portraits de parents sans penser au couple de parents de Canada. Mmh. C'est-à-dire ces gens qui sont... complètement empoté avec RL, et ses parents, s'ils avaient des difficultés, auraient pu aller cambrioler, essayer d'aller cambrioler quelque chose. Enfin, on le voit bien, ça. Et il y a énormément de proximité entre cette enfance, ses parents, toutes ces images qui lui viennent de l'enfance, et on retrouve ça dans son œuvre. Et en même temps, on sait que son œuvre est pas, on peut pas aller dire forcément totalement autobiographique au sens précis du terme. Donc, il y a toujours, il nous voit entre tout ça. Par exemple, Richard Ford est quelqu'un qui l'a dit et répété, qu'il avait décidé de ne pas avoir d'enfant pour telle et telle raison. Or, on sait très bien que la filiation dans son œuvre est quelque chose d'extrêmement important. Canada s'est vu du point de vue des enfants. Dans sa trilogie, ou quatre livres sur...
Franck Bascombe.
Sur Franck Bascombe. La question des enfants est extrêmement importante. Il y a un enfant qui meurt, il y a un enfant qui a des difficultés. Enfin, tout est là. Et quand... Alors, on peut lire ces deux textes avec un plaisir infini, je trouve, sans avoir lu une ligne de Richard Ford. Et quand on est passionné de Richard Ford, on peut le lire aussi et on revoit toute l'œuvre comme ça émerger, s'épanouir. J'ai trouvé que c'était un pur bonheur.
Elisabeth Philippe.
Je n'ai pas partagé ce pur bonheur. Et pourtant, j'aime Richard Ford. J'aime énormément son œuvre. Canada, j'étais éblouie par ce roman. Et effectivement, à la lecture de ce texte, puisque dans Canada, la vie du narrateur, du jeune garçon, bascule à 16 ans. Et c'est le cas pour Richard Ford aussi, puisque son père meurt lorsqu'il a 16 ans. Je trouvais le procédé très intéressant, ce diptyque, un texte consacré au père, un texte consacré à la mère. Il le justifie d'ailleurs en disant je voulais faire de mes parents non pas une entité, mais montrer deux individus. Et à mon sens, là où il échoue, c'est quand il dit qu'il veut se pencher sur l'inaperçu, sur les choses qui sont obscures, sur ce qui se passe entre eux, l'intimité qu'il y a entre eux. Et moi, je trouve qu'il reste constamment à la surface de ces personnages, ce qui peut être dans la démonstration factuelle, hein, d'ailleurs, il emploie ce terme dans la postface, et on peut le comprendre pour le portrait qu'il fait de son père. D'ailleurs, le texte consacré au père est intitulé « Au loin, je me souviens de mon père », et on reste effectivement au loin, je trouve. Le père demeure une silhouette. D'ailleurs, il insiste beaucoup sur l'évolution physique de son père qui est malade,
donc la prise de poids,
la calvitie. Alors, c'est... Oui, il y a de très belles images. Moi, j'avais l'impression de voir des photos de Walker Evans, les travailleurs anonymes. Mais je trouve que le père reste un peu anonyme. Comme si, effectivement... Puisque...
Bah, c'est bien ce qu'il dit dans le texte.
Oui, mais...
Ce père, il est loin.
Il est loin, mais Richard Ford se contente de faire des suppositions. Et puis, je trouve qu'il fige un peu ses parents. À plusieurs reprises, il dit, mais c'était pas le genre de personne à réfléchir à leurs sentiments ou à se poser des questions sur ce qu'ils éprouvaient. Mais qu'est-ce qu'il en sait?
Mais il s'interroge sur ce qu'il sait lui-même de ses parents.
Oui, mais je trouve qu'il en tire pas grand-chose. Je trouve qu'il en tire pas grand-chose, qu'il reste vraiment à la surface. Il y a quelque chose de très pragmatique, d'un peu froid, un peu de surplomb aussi. Et je trouve que c'est un peu figé, un peu désincarné. Et d'ailleurs, quand dans le texte sur sa mère, il explique à l'approche de la mort de sa mère qui est atteinte d'un cancer, il écrit « Je me mitridatisais contre l'idée de sa mort ». Et je pense que ça a contaminé aussi son écriture et que ça explique une certaine froideur, une certaine distance et distance qui peut expliquer cette forme d'insensibilité. Moi, je trouve dans cette phrase, au moment de la mort de son père, il écrit « Pour un garçon qui voit le monde se déployer autour de lui, il y a de pire calamité que de perdre son père, même un bon père. » Je trouve cette phrase assez étonnante. Et l'émotion affleure par moments, notamment quand il explique que 70 ans après la mort de son père, il ne se souvient plus du son de sa voix. Ça, je trouve ça très beau. Mais sinon, je trouve ça assez froid.
Dernier mot, Daniel Martin.
J'ai trouvé que c'était très en harmonie avec ce que Richard Ford écrit, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une vie, comment ça se fabrique, les incertitudes. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le texte aussi, c'est cette question du devenir, de l'avenir, cette chose qui advient, dont on ne sait rien et qui peut tout remettre en question. Enfin, cette espèce de vide qui s'ouvre en permanence. Dans la relation au père, je trouve que père, mère et fils ont une sorte de relation de tendresse, mais effectivement, dont on peut penser qu'ils ne font rien. Que ça ne crée pas d'histoire. Alors, pour être précis, ce sont des gens qui ont d'abord beaucoup vécu ensemble et qui ont eu un enfant tardivement. Donc, au fond, qu'est-ce que c'est cet enfant qui vient? Ils auraient pu le rejeter, le refuser. En plus, ce sont des gens qui sont habitués à se déplacer énormément puisque le père est représentant de commerce. Donc, l'enfant aurait pu être encombrant. Et ils l'embarquent avec eux dans leur histoire, mais c'est une petite histoire. Et ça relate...
Mais il n'en fait pas grand-chose.
Bon, vous n'étiez pas d'accord sur le premier livre.
De vide qui
ça me fait penser.
Moi, je rejoins Daniel Martin.
À sa mesure, ça me fait penser à la pastorale américaine, par exemple. Qu'est-ce qui a été sa petite histoire. Qu'est-ce qui a été le passé, la vie à un moment. Qu'est-ce qu'on en fait. Enfin, cette question par exemple, il pose très bien.
Vous allez me dire qu'après, vous aurez plus de temps de parler de Karel Skullman, ce qui est vrai. Hein. Je partage complètement votre avis, Daniel Martin, sur le livre de Richard Ford. Je partageais tout à l'heure l'avis d'Elisabeth Philippe sur le livre d'Olivier Aralambon. Donc voilà, c'est assez équitable.
Et en quelque sorte.
Pardon ?
Vous êtes et d'accord avec moi et d'accord avec Elisabeth.
Selon les moments. Mais je suis surtout respectueux de l'horaire. Et hélas, même pas 10 minutes pour Karel Skullman, ça va être très compliqué. Mais je recommande, comme vous, Daniel Martin, et lecture de ce livre de Richard Ford, Entre eux, qui m'a beaucoup ému. Il paraît aux éditions L'Olivier dans une traduction de José Camoun.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Troisième sujet en 9 minutes pour En étrange pays de Karel Skullman, écrivain sud-africain, disparu au début du mois de mai dernier. Il avait 77 ans, moins connu hors de ses frontières que Koenig, Gordimer ou André Brink. Il avait pour autant reçu les prix littéraires les plus importants dans son pays. C'est justement avec En étrange pays qu'on a connu son œuvre en France. C'était en 93. On suivit notamment La saison des adieux ou Retour au pays bien-aimé. Il est republié en libretto dans la traduction de Jean Guilloineau, ce livre En étrange pays qui suit les derniers mois d'un riche Hollandais atteint de tuberculose. Il arrive à Bloemfontein. Nous sommes à la fin du 19e siècle dans une ville qui était alors la République, bourg de l'État libre d'Orange. Comme il reste peu de temps, on en vient tout de suite à cette dispute entre vous, Elisabeth Philippe.
Alors, je n'avais pas lu En étrange pays lors de sa première parution en 93, car je n'étais pas née. Donc, c'était une découverte pour moi, je l'avoue. Il y a un côté montagne magique en Afrique du Sud, mort à Venise aussi, puisque c'est un Hollandais qui va donc mourir dans ce pays qui s'est transformé dans cette ville qui s'est transformée en immense mouroir, puisque tous les Hollandais, enfin Bloemfontein est réputé pour avoir des vertus sur les malades de la tuberculose. En quelques mots, puisqu'il nous reste peu de temps, Moi, j'ai trouvé, certes, il y a des images très très belles, il y a une attention portée aux détails, aux flacons, aux carafes, aux grenades, des boucles d'oreilles, aux rubans, des vêtements qui rappellent, malgré l'anachronisme, des tableaux d'intérieur hollandais, de Vermeer ou autre. Mais à côté de ça, j'ai trouvé que c'était un livre extrêmement pesé, très pesant. Alors, le héros est malade, on étouffe aussi un peu. Moi, j'avoue qu'elle a, sans, je sais pas, 40e mention du bruissement des robes de la veuve qui héberge le héros, je n'en pouvais plus. À la 80e mention des pieds nus des domestiques, je commençais à saturer aussi quelque peu. Et puis, une redondance des dialogues entre le pasteur et le héros. On revient toujours sur les mêmes questions. Il y a aussi parfois des questionnements autour de la foi réformée, luthérienne, etc. Non.
Mais
non, là est Martha.
Honnêtement, je trouve que intéressant de parler de Karel Skeman parce que en fait, c'est quelqu'un qui a une œuvre assez considérable dont très peu de choses a été traduit en France. Je crois que c'est Daniel Arsan qui a introduit Karel Skeman en France. Il y a quelques livres qui ont été publiés.
Non, je crois pas que c'est Daniel Arsan, mais Daniel Arsan avait lu la plus grande publication chez Lafon. Il a décidé de les éditer chez Phébus ensuite, je crois.
Oui, c'est ça, parce que les premiers textes.
Rendons à César.
Les premiers textes ont été publiés chez Lafon. Mais bon, c'est quand même lui qui a
suite du travail.
J'ai proposé ce livre, moi, parce que Karel Skeman vient de mourir et est mort dans des conditions qu'on dit assez épouvantables, puisque c'est quelqu'un qui a refusé de s'alimenter et qui s'est en quelque sorte suicidé dans une maison de retraite où il était hébergé. Et je trouve que il y a une rencontre entre cette mort et cette fin et ces personnages qui est assez importante. C'est un auteur sud-africain qui, à mon avis, n'est pas assez connu. Parce que sur les trois livres, Retour au pays bien-aimé, par exemple, moi j'ai découvert avec Retour au pays bien-aimé, qui est un livre que j'ai absolument beaucoup aimé. La saison des adieux, qui est un livre beaucoup plus contemporain. Ces trois livres, moi je trouve que ça a le mérite, de l'inscrire quand même dans une histoire littéraire, de pas l'oublier. Et la première chose que je voulais faire avec lui, c'était ça, c'était ce salut. Voilà. Et vous n'avez pas lu Retour au pays bien-aimé ou Saison des adieux?
J'avoue que non.
Oui, mais là, vous n'êtes pas forcément incité. Alors pourquoi ce livre-là, En étrange pays, qui n'est pas un fin volume?
Parce que nous sommes dans la rubrique poche, et qu'en fait, c'est le seul qui a été repris en libretto, c'est dommage. Mais Karel Skeman, c'est quelque chose d'assez curieux, parce que ses livres sont arrivés en France, et petit à petit, il a convaincu un certain nombre de critiques qui l'ont défendu. Mais effectivement, ça a été un phénomène très lent, et je trouve que effectivement, il ne fait pas ses auteurs, c'est pas partie de ses auteurs quand on lit qui bluffe totalement, mais voilà, moi je tenais à saluer ce personnage, cet homme, et à ce qu'on s'intéresse à lui. Et
mais au-delà de ce salut, Daniel Martin, parce qu'à force quand même, il nous reste quand même quelques minutes, sur En étrange pays, très précisément, quand vous entendez la difficulté de lecture d'Elisabeth Philippe sur la redondance, les répétitions.
Je n'ai pas relu ça récemment, mais j'en ai un souvenir. Moi, cette approche de la mort, la manière dont ces personnages approchent de la mort et les questions qu'ils posent, toute cette dimension-là, le souvenir que j'en ai, c'est que je trouve que c'est plus fort que quand Olivia Alambon parle de cyclisme.
Ah oui, ça c'est fort, c'est lourd en fait, c'est très très lourd. Et notamment, il y a des discussions autour, le héros lit emporter l'Énéide de Virgile avec lui. Moi, je préfère mille fois relire l'Énéide que ça. C'est des discussions très très plombées avec le pasteur, encore une fois, sur la mort. C'est très démonstratif. Non, j'ai trouvé ça pesant. Il y a des scènes très belles. C'est vraiment une succession de tableaux, mais il y en a trop qui se ressemblent trop. Mais j'aime énormément la scène.
Mais vous
voyez,
plus vous parlez, plus vous trouvez de qualité.
Non, mais c'est un écrivain, c'est certain.
Fait très très longtemps.
Mais la scène de bal durant laquelle le héros s'évanouit, parce que le héros est dans le déni de sa fin prochaine. Ouais. Il ne supporte pas de voir d'autres malades. Il est dans ce déni de la mort et il assiste à un bal et c'est très beau, c'est vraiment, il y a un côté décadent aussi, mais très tenu, très austère, donc ce mélange n'est pas inintéressant, et donc il s'évanouit pendant ce bal. Je trouve que c'est une très belle scène. Il y a d'autres, mais je trouve qu'on ne voit rien du pays, on ne voit rien du, c'est quand même un moment historique important, c'est la fondation de ce pays, et il n'en ressort pas grand chose. Alors ça pourrait être intéressant effectivement d'être dans ce pays, cette immensité du Veld, et de n'écrire un roman qui finalement n'est presque qu'un huis clos, puisqu'on passe toujours d'intérieur en intérieur. Ça peut être assez intéressant, mais là c'est fait de façon très, encore une fois, très empesée.
Alors voilà, donc moi la seule chose que j'aimerais qu'on retienne, malgré ce commentaire qui est peu encourageant, ce qu'on retienne, c'est les quelques livres de Carole Schuurman publiés en France. J'ai un très beau souvenir de Retour au pays bien-aimé, j'aime beaucoup La saison des adieux. Moi j'ai un très beau souvenir de ce livre aussi. Alors peut-être qu'avec le temps, effectivement, voilà. Mais je trouve que Schuurman mérite d'être inscrit dans les grands auteurs comme Gordimer ou Coetzee ou Brink. Voilà, pas Brink, non.
Je ne trouve pas dans la liste.
Non, je trouve que, enfin, je trouve Schuurman beaucoup plus littéraire, beaucoup plus. Brink, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, grand public. Vous êtes d'accord ?
Je suis d'accord.
Ah. Nous terminons sur un accord, c'est formidable.
Bon, bah du coup, j'attendais de grandes envolées de Daniel Martin. Il nous reste encore un peu de temps. Non, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va écouter de la musique sud-africaine.
Philippe m'a coupé l'herbe sous le pied. Comment vous voulez-vous ?
Elle a eu le livre, contrairement à vous. Je ferai remarquer Daniel Martin. Vous avez un peu...
Moi, je fonctionne sur les souvenirs.
444 pages.
Alors, il y en a beaucoup par page. Hein. Elles sont bien remplies, les pages. Hein. Moi, je n'ai pas été du tout jusqu'au bout. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Mais par manque de temps.
Ah, bon.
mais en même temps, je n'ai pas été absolument attrapé par la prose de Carole Schuurman.
Schuurman n'est pas démonstratif, n'est pas. C'est quelque chose qui est toujours très lent.
Oui, je n'ai rien contre la lenteur. Mmh. Bon, je n'ai pas réussi à
me glisser. C'est une agonie.
C'est une très lente. Et très longue agonie. En étrange pays, c'est le titre, en tout cas, de ce seul livre de Carole Schuurman disponible en édition de poche.
Les autres sont toujours
poche,
disponibles en grand format.
Libretto. C'est une traduction de Jean Guilloineau et les autres, donc, aux éditions, en effet, Phébus. Et avant de conclure tout à fait cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. Justine Dibling nous a rejoint. Vous m'avez troublé, Daniel, avec votre mauvaise foi. En commençant par un rappel du jeu d'hier soir, la dispute sur les souvenirs. On devrait faire ça sur des livres uniquement lus il y a plusieurs années, en fait. Ce serait assez une émission expérimentale. On fera peut-être pareil en cinéma. Enfin bon, il y a une idée, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Bon, le jeu de la dispute. Est-ce qu'on se rappelle de la question du jeu d'hier soir ? Vous nous la rappelez, Justine Dibling ?
Je la rappelle. Donc, dans quel court-métrage Jean Rouge s'intéresse au quotidien de jeunes filles de bonne famille du 16e arrondissement parisien ? Et la réponse était dans Les Veuves de 15 ans.
Et on fait gagner ce soir des passes pour le festival du film de Cabourg qui a lieu du 14 au 18 juin. Quelle est la question, Justine ?
Marcel Proust s'est inspiré de Cabourg pour décrire une station balnéaire imaginaire dans La recherche du temps perdu. Quel en est son nom ?
Ah, ça, vous n'avez pas de réponse, je suis sûr. Auditrice, auditeur, si vous avez la réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales. C'est à envoyer par courriel uniquement à l'adresse mail suivante, auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter ces émissions, vous abonner au podcast, bien sûr. Vous pouvez également nous écrire. On vous donne rendez-vous lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant en compagnie d'Elisabeth Franck-Dumas et Fabienne Pascot. À notre affiche Une vie, deux et mise en scène par Pascal Rambert, c'est au Théâtre du Vieux Colombier pour la Comédie Française. Comme une pierre qui, d'après Grain Marcus, adaptation mise en scène Marie-Raymond Sébastien Poudreau, cette fois c'est au Studio Théâtre de la Comédie Française. Nous évoquerons aussi plus rapidement l'exposition La Bibliothèque la Nuit, conçue par Robert Lepage, inspirée évidemment du livre d'Alberto Manguel, c'était la BNF, et nous évoquerons aussi le festival Les Nuits de Fourvière. En fin d'émission, Boris Pino passera un coup de fil à Olivier Atlan, le directeur de la Maison de la Culture de Bourges. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture à 22h15. Les discussions du soir dans quelques instants, le journal de la rédaction.